Bonjour, comment allez-vous? La semaine dernière, j'ai eu la chance d'aller passer le week-end à Nice en avion. Je ne voudrais sincèrement pas blasphémer, mais pour moi, prendre l'avion ou voir la Sainte Vierge au fond d'une grotte dans les Pyrénées, c'est aussi miraculeux. Je m'imagine raconter à un gars du XVIIIe siècle que je mets une heure pour aller de Paris à Nice en volant, il m'aurait dit ce qu'a dit le lièvre à la tortue, « Soignez-vous de 2 ou 3 grades dès les bords », une plante qui soignait la folie. Hasard merveilleux, j'étais près du hublot. Double hasard merveilleux, un homme beau comme le ciel est venu s'installer sur le siège d'à côté. Il m'a parlé gentiment, m'a dit des trucs intéressants, mais moi, ce que je voulais voir, c'était le décollage. Rouler vite, s'arracher du sol, voir Paris d'en haut, la Seine, la Tour Eiffel, tout ça a été éblouissant. Il faisait un temps de rêve. Et puis les Alpes enneigées, la mer. Il avait beau être cultivé, pépère, je n'arrivais pas à tourner la tête vers lui. J'étais dehors, j'étais dans le ciel. Il faut dire que mon physique, avec 2 bras, 2 jambes, me permet de faire beaucoup de choses formidables, mais pas de voler. Alors j'en profitais. Mon séduisant voisin m'a demandé, mi-protecteur, mi-méprisant, si c'était la première fois que je prenais l'avion. J'allais lui répondre un peu piqué que je l'avais pris des dizaines, peut-être même 100 fois. Et puis finalement, je n'ai rien dit. Pendant l'atterrissage, comme au décollage, il a lu son journal. J'étais un peu gênée de boucher le hublot avec ma grosse tête, alors je lui ai demandé s'il voulait que je me recule un peu pour qu'il puisse voir aussi. En rigolant, il m'a répondu « Non, j'ai déjà pris l'avion ». En récupérant nos bagages, nous étions de nouveau à côté. Très gracieusement, il m'a dit que ça lui ferait plaisir de m'inviter à dîner. Je lui ai répondu « Non, j'ai déjà dîné avec un garçon ».
Bonjour, je m'appelle Moula et j'ai 7 ans. J'aimerais savoir si les avions volent plus haut que les oiseaux. Merci, au revoir.
Les oiseaux volent plus haut que les avions, Lula. Alors nous avons proposé ta question à un pilote d'avion très prestigieux, le lieutenant-colonel Arnaud Ambert. Vous pilotez des avions de guerre?
Des avions à réaction, oui, des avions de chasse, comme on dit.
Des avions de chasse, pardon.
Ouais.
Ce sont ceux qui volent le plus haut?
Alors, c'était ceux qui volaient le plus haut. Et maintenant, l'évolution technologique fait que les avions de ligne parviennent à nous rejoindre dans les couches les plus hautes de l'atmosphère.
Et les oiseaux demandent Lula?
Eh bien, on les croise, mais c'est plutôt dans les basses couches. Souvent, on est surpris parce que il nous arrive d'en croiser aux alentours de 2 000-3 000 mètres.
Oh là là!
Après, au-dessus de ces altitudes-là, on n'en croise pas. Nous, il faut savoir qu'on monte jusqu'à environ 15 000 mètres d'altitude. Pour le coup, l'oxygène est très rare et donc forcément tout être vivant aura du mal à survivre là-haut.
Quand même, un oiseau qui à la verticale fait 2-3 kilomètres, il faut s'arracher du sol sur 2-3 kilomètres comme ça.
C'est surprenant parce que, alors souvent ça peut être des oiseaux qui utilisent les courants ascendants pour monter là-haut et c'est vrai qu'on en croise, on croit être tranquille entre guillemets, c'est-à-dire parce qu'on partage le ciel bien sûr et ils étaient là avant nous. Mais on doit faire attention pour pas qu'il y ait de collision entre eux et nous. Mais c'est vrai qu'on croit être assez tranquille très rapidement au-dessus de 1000 mètres. Et puis ça nous arrive d'en croiser assez haut.
Quand vous dites, Arnaud Ambert, je dois faire attention pour pas qu'il y ait de collision. La collision, elle est fâcheuse pour qui? Pour l'oiseau ou pour l'avion?
Alors ben, la collision avec l'oiseau est fâcheuse pour tout le monde. Bien évidemment pour l'oiseau.
Ouais.
Et pour nous par rapport au matériel. Donc on évite.
L'avion a l'air beaucoup plus solide, pourtant on voit bien sur les aéroports qu'on les chasse ces oiseaux. C'est donc bien qu'ils doivent pouvoir arriver à endommager des avions. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Ce soir, nous saurons qui s'occupe des chemins de grande randonnée, ce que c'est exactement qu'un rayon vert et pourquoi c'est rare, et aussi si la tête des escargots repousse quand on la coupe. Elle est horrible cette question.
Bonjour, je m'appelle Rachel et je voudrais savoir comment mon ventre gargouille.
Le ventre qui gargouille, docteur Frédéric Salmane. Votre santé sans risque, c'est édité chez Albin Michel, c'est le titre de votre livre. Vous êtes cardiologue et aussi nutritionniste. Vous êtes dans la gargouille un peu.
Alors, c'est dans la gargouille, t'as raison, c'est une musique qu'on entend et qui surprend. Alors, quand ça gargouille, c'est comme si l'intestin se nettoie, c'est-à-dire que ça descend. Donc, il ne faut pas du tout s'en inquiéter, au contraire, c'est signe que les choses marchent bien. Alors, il y a des aliments qui font que ça gargouille encore mieux, c'est les fibres qu'on retrouve dans les légumes, dans les fruits. Et ces fibres vont faire, c'est un petit peu les fibres, si tu veux, comme le savon des intestins. Ça veut dire que ça se nettoie.
ça descend
les déchets.
Et voilà, et c'est comme une eau qui descend, par moments elle fait glou-glou. Donc ce gargouillement est physiologique, il est naturel. S'il se fait bien, il y aura moins de gaz intestinaux et un meilleur confort intestinal. C'est pour ça qu'il faut mettre au menu le plus souvent possible des aliments qui vont faire du bien. Et moi, je me suis intéressé en particulier aux aliments détox. Je ne parle pas des jus magiques où j'ai jamais compris comment ça marchait, parce qu'il n'y a aucune raison que ça marche. Mais il y a des aliments qui ont un pouvoir détox formidable. L'avocat, par exemple. Si on mange un burger avec du bacon, eh bien on diminue, si on prend de l'avocat en même temps, de 30% l'inflammation digestive. C'est comme le baume des intestins. Le cresson diminue le benzène qui est cancérigène. Il agit tout de suite. Les dattes diminuent un métal lourd qu'on retrouve, qui est le cadmium. Donc en fait, il y a des aliments détox naturels qu'on trouve au marché et qui sont des véritables boucliers pour notre santé. On apprend à manger non pas contre soi, mais pour soi.
Avocat, cresson, dattes sont des bonnes choses.
Il y en a plein. Il y a plein d'aliments détox qui fait qu'on va manger très sain, se protéger de beaucoup de toxiques naturellement. Et ça change tout. Ça veut dire que on va moins subir des produits chimiques, des pesticides, sans pour autant acheter bio. Et ça, c'est formidable.
On va se faire des copains chez les bio. On peut aussi acheter bio.
Le bio, c'est aussi très bien. C'est formidable. Mais on n'en a pas toujours du bio à portée de main.
Oh non, et puis en plus, je comprends votre propos. Bio ou pas bio, c'est une chose. Mais ça, c'est la nature des aliments dont vous parlez.
Avec une assiette, on peut se construire une santé de fer. Il faut juste connaître les bons aliments qui nous protègent.
Pour revenir à la question de Rachel, comment votre ventre gargouille, parfois on dit que c'est parce qu'on a faim. C'est pas forcément vrai alors.
Non. Parce que quelque part, entre le ventre qui gargouille et la faim, c'est simplement parce qu'on se dit, tiens, ça se vide.
Ah oui,
il va falloir remplir. Mais les gens, à ce moment-là, n'ont pas forcément faim. Justement, vous savez, quand ça gargouille, c'est-à-dire que c'est en train de se vider. Laissez à l'organisme, aux cellules, le temps de régénérer tranquillement, de faire une pause. Pour tout organisme, ils ont besoin de souffler. C'est important. Et si on ne souffle pas, on n'a pas le temps de se réparer. Et c'est la porte d'entrée des maladies.
Avocat, date, cresson, pour une fois qu'une chose bonne pour la santé est également bonne au goût. Est-ce que vous connaissez un plat qui s'appelle les breads, qui est un plat de l'île Maurice, qui est fait avec du cresson et qui est un délice?
Les vêtements sont plus de ceux de ce toit.
Robert Lenoir est un jeune Québécois.
Les petits bateaux sur France Inter.
Si vous avez commencé vos semis, peut-être si vous êtes au sud de la Loire, ces semis sont déjà des jeunes pousses. Et à ce moment-là, votre ennemi numéro un, c'est l'escargot. Vous n'avez pas une raison pour lui faire du mal.
Allô, bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 12 ans et dans un livre j'ai lu que quand on coupait la tête aux escargots, ça repoussait. Est-ce vrai? Merci, au revoir.
Bonjour, je m'appelle Clémence, j'ai 6 ans et demi. Avec mon petit frère, on voudrait savoir est-ce que les yeux des escargots peuvent repousser? Merci, au revoir.
Merci pour cette question bien exprimée. Est-ce que les yeux des escargots peuvent repousser? Et Nathalie demande si on coupe la tête aux escargots, si elle repousse. Jean-Claude Bonnet, vous qui avez dirigé l'unité hélicicole de l'INRA, c'est extraordinaire ces questions.
Vos deux correspondantes vont être très déçues parce que ni les yeux ni la tête ne va repousser.
Donc on ne leur coupe pas, bonne nouvelle.
Il ne faut surtout pas leur couper parce que c'est la mort assurée. Alors les deux grandes tentacules au bout ont des petits points noirs, ça ce sont réellement les yeux. Les deux autres tentacules que l'on aperçoit chez un escargot, ce sont des tentacules olfactives.
Et c'est rétractable?
C'est rétractable, absolument. Et donc si on lui coupe la tête, donc le pauvre il va perdre sa mâchoire, sa langue. Alors la langue d'un escargot, c'est comme une râpe à bois, avec de toutes petites aspérités, mais en très grand nombre. Et sa mâchoire, c'est comme si on enlevait les dents d'un être humain, il resterait plus que la partie dure, donc ça s'appelle une mâchoire cornée. Et sa langue s'appelle une radula.
Et ça lui sert à attraper
des végétaux. Et puis également, dans sa tête, il y a son cerveau. Donc quelque chose d'ancestral, il s'agit de ganglions cérébroïques reliés entre eux.
C'est une espèce qui existe depuis longtemps, les escargots, Jean-Claude Bonnet?
Depuis la nuit des temps.
C'est-à-dire qu'ils étaient sur Terre nous?
Avant nous, bien avant nous, et ils ont traversé les millénaires sans évoluer. Ils sont adaptés, mais n'ont jamais évolué.
Donc voilà. Vous savez d'ailleurs que ce n'est pas parce qu'un organe repousse qu'il faut le couper. La queue du lézard, par exemple, il ne faut pas lui enlever pour s'amuser parce que le lézard, même s'il arrive à faire repousser sa queue, ça lui demande une énergie de dingue, comme dirait l'autre, et ça le fatigue énormément. Donc, ceux qui repoussent, on ne le coupe pas, et ceux qui ne repoussent pas, on le coupe encore moins. Quant à empêcher les escargots de manger nos plantes, alors on parle de sable, de coquilles d'œufs, de bière, de fil de cuivre, bon, qui sont des alternatives au coupage de tête.
Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 5 ans et je voudrais savoir pourquoi c'est rare de voir le rayon vert et qu'est-ce que c'est exactement. Merci de me répondre, au revoir.
Bonsoir Louise, c'est Emmanuel Beaucré, directeur de l'unité média de Météo France qui va nous éclairer.
Alors, bonsoir Louise, je vais te dire que le rayon vert, c'est un phénomène d'optique. Alors, si je te dis que c'est une réfraction atmosphérique, tu vas te demander qu'est-ce que c'est. Alors,
réfraction atmosphérique, ça fait rien, c'est agréable de le savoir. D'abord, alors, ça veut dire que ça existe.
Ça existe, c'est extrêmement rare. En France, il y a peu de chances de le voir. C'est un phénomène qui se passe essentiellement plutôt au coucher du soleil, ça peut se produire au lever du soleil. Il va se passer la chose suivante, la lumière que l'on connaît, qui est une lumière blanche, en réalité c'est une accumulation de plusieurs lumières, de différentes couleurs, du rouge, du bleu, du jaune, etc. Et il y a du vert dedans. Au coucher du soleil, les rayons lumineux traversent la partie supérieure de l'atmosphère, et comme il y a beaucoup de particules, les rayons sont décalés. Le bleu va être un peu décalé vers le bas ou vers le haut, le rouge, etc. Et au bout d'un moment, on va voir apparaître les différentes couleurs. De façon classique, quand on regarde un coucher de soleil, il est plutôt orangé, voire rouge, alors que le soleil en journée est plutôt jaune. Et de temps en temps, on peut voir apparaître une petite couleur verte, ça dure 2, 3, 4 secondes, pas plus. Et c'est couleur vert émeraude, et ça dure très très peu de temps. Alors si jamais on veut le voir, en général, en France, on n'y arrivera pas parce que l'atmosphère est trop polluée. Le soleil va se coucher trop vite, on va pas pouvoir le voir. C'est souvent en mer qu'on arrive à bien le voir. Et je rappelle, il y a un livre très connu de Jules Verne qui s'appelle Le rayon vert. Les héros se posent des questions de qu'est-ce que c'est que ce fameux rayon vert, vont le chercher et le héros en cours d'histoire va tomber amoureux et au moment où il faudra voir le rayon vert et on pourra voir le rayon vert, il embrassera sa petite amie donc il aura raté le rayon vert.
Oui, mais il a reconnu l'amour. Donc le rayon vert, ça se voit quand même plus sur la mer.
Ça se voit plutôt sur la mer, plutôt dans des zones plutôt tropicales. Et par contre, il faut avoir une atmosphère vraiment très claire, pas de nuages. Il ne faut pas qu'il y ait de gêne au niveau optique.
Et vous, Emmanuel Beaucré, est-ce que vous l'avez déjà vu?
Alors, je l'ai vu heureusement une seule fois. J'ai attendu beaucoup de soirs pour essayer de le voir. Il n'y a qu'une seule fois où j'ai pu le voir, malheureusement.
Et c'est vraiment vert.
Ah, c'est vert, c'est un vert émeraude, c'est un flash, ça dure une, deux secondes, mais c'est, ça vous marque à vie.
C'était où?
L'île de la Réunion.
Donc, le rayon vert existe. Nous avons parlé il y a quelque temps de l'arc-en-ciel et nous avons dit que c'était impossible d'aller au pied d'un arc-en-ciel. Et nous avons reçu un mail d'un auditeur de 42 ans qui s'appelle Anthony et qui nous a dit qu'il avait traversé un arc-en-ciel. J'étais pas avec lui, je peux pas savoir comment ça s'est passé exactement, mais en tout cas, ce témoignage nous a fait rêver. C'était Janis Joplin en 1970, l'année de sa mort d'une overdose d'héroïne dans une chambre d'hôtel d'Hollywood. Elle avait 27 ans.
Oui, bonsoir les petits bateaux, ici c'est Benjamin. Moi, je me posais la question, en étant dans les Pyrénées, de savoir qui crée les sentiers de randonnée et qui s'en occupe. Merci.
Benjamin, qui crée les sentiers de randonnée et qui s'en occupe? Séverine Ikaoui, vous êtes directrice de la Fédération française de randonnée pédestre. Que pouvez-vous répondre à Benjamin?
Alors Benjamin, dans sa question, nous dit qu'il était dans les Pyrénées. Alors j'imagine très bien Benjamin sur le GR10, probablement, et devant des balises blanches et rouges qui jalonnent tous les GR qui sillonnent la France.
Pas mal.
Alors 93 000 kilomètres de GR, de sentiers de grande randonnée sur le territoire. Benjamin et tous les autres randonneurs ont un très beau stade pour aller parcourir la randonnée. Alors, qui, eh bien, depuis 1947, hein, puisque les premiers GR ont été balisés en 1947, ce sont des bénévoles qui conçoivent, qui créent, qui balisent, qui entretiennent ces itinéraires de grandes randonnées. Aujourd'hui, on a à la fédération environ 8000 bénévoles partout sur le territoire qui consacrent, eh bien ma foi, quelques jours par semaine à aller donc entretenir, vérifier le balisage de l'ensemble de ces itinéraires.
Ah, c'est chouette ça comme état d'esprit.
Ah ben complètement, et ça dure, je vous dis, depuis plus de 70 ans cette affaire.
Quand vous dites 93 000 kilomètres de sentiers de grande randonnée, Séverine Icaoui, c'est en métropole.
Pas du tout, ça comprend l'outre-mer. Il y a de très très beaux itinéraires, alors... Évidemment, souvent, on pense à La Réunion, mais aussi en Martinique, en Guadeloupe. Et puis, il commence à y avoir des projets en Guyane. Ah, donc, non, on peut aussi aller randonner et retrouver les balises blanches et rouges sur nos territoires d'outre-mer.
C'est marrant parce que quand Benjamin a posé sa question, vous avez tout de suite dit GR10. Alors, celui qu'on connaît par cœur, c'est le GR20. C'est quoi? C'est la Corse,
hein? Ah ben, c'est la Corse. Ah, ouais. C'est la Corse. Alors, c'est celui qui est considéré comme... Allez, le ou un des plus sportifs. Celui-là, il faut quand même avoir un petit peu d'entraînement pour s'y colter. Mais vous avez des GR, on va dire, plus abordables. Un qui commence à avoir une très belle notoriété, c'est le GR34 qui fait le tour de la Bretagne par le littoral, où vous quittez quasiment jamais la mer des yeux. C'est aussi un très très bel itinéraire. Et on peut marcher aussi dans les villes.
Alors dans lesquelles villes, par exemple? Ah bah alors,
Paris a été une des premières. Hein. Si vous vous promenez dans Paris, regardez, vous allez trouver. Alors cette fois-ci, les balises seront jaunes et rouges. C'est un balisage pour ce qu'on appelle les GR de pays, qui sont des itinéraires en général qui se parcourent en quelques jours, qui sont plus petits que les GR, qui sont des grands itinéraires qui traversent des régions entières. Donc Paris, mais vous avez Toulouse, vous avez Bordeaux, vous avez Montpellier, vous avez des itinéraires qui vous permettent de découvrir la ville à un autre rythme, et puis de passer par des endroits où on passe pas ni en voiture ni en transport en commun. C'est une belle façon de se réapproprier l'espace urbain aussi de marcher.
Alors qui décide, Séverine Icaoui, de dire ce chemin-là sera GR?
La fédération. La fédération a un pouvoir entre guillemets normatif, c'est-à-dire que les structures. Alors souvent l'idée naît sur un territoire. De créer un itinéraire. Il y a tout un travail de terrain qui se fait, donc comme je vous le disais, par des bénévoles qui parfois peuvent travailler aussi avec des structures de type ONF, parc naturel, selon les territoires sur lesquels l'itinéraire passe. Puis il y a tout un dossier qui est monté, et c'est la fédération qui décide de l'homologuer en GR ou non.
Par exemple, moi, si je connais un très joli parcours en Lorraine qui n'est pas encore GR, je peux écrire à la fédération en disant ce chemin-là, il est formidable, ce serait bien d'en faire un GR.
Vous prenez contact avec le comité régional ou départemental de la fédération, puisque nous sommes présents, on va dire, à tous les échelons du territoire, avec votre projet sous le bras. Vous rencontrerez donc ces fameux bénévoles qui travaillent au sein de nos comités et qui se pencheront avec vous sur ce projet.
Réalisation Marjorie de Voucoup, prise de son Henri Bérec, programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, animation Noël Bréham. Ces petits bateaux sont terminés, mais vous pouvez les réécouter, tout ou partie, sur franceinter.fr.